Bonsoir. Oula, je vais parler fort aujourd'hui. Ça va ? Je suis content de vous voir, en tout cas, pour ce premier rendez-vous Pôle Info Santé de l'année 2014. On fait plusieurs années, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est ensemble, pour ceux qui nous suivent. Je sais qu'on a des fans ici devant. Qui viennent. Ça fait depuis combien de temps que vous venez, vous ? Presque 10 ans. Ah oui, vous étiez là avant moi. Bon, en tout cas, merci de votre fidélité. Le Pôle Info Santé, c'est le fruit d'un partenariat entre le CHU et dont l'une des missions, c'est l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France, centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre à vous, grand public, d'échanger avec des professionnels de la santé, du monde hospitalier et généraliste qui sont là. Donc nos intervenants vont se présenter tout à l'heure et nous allons évoquer aujourd'hui donc, le cancer ORL, dépistage et prise en charge. Alors à la fin des exposés, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc on va attendre que nos trois intervenants aient fini leur exposé. Puis ensuite je viendrai vers vous avec mon micro et puis je vous donnerai la parole. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Attention évidemment, on ne fait pas de consultation puisque les intervenants n'ont pas vos dossiers, évidemment, ne peuvent pas répondre. Alors essayez, je vous fais confiance, de généraliser votre question pour qu'elle puisse intéresser un maximum de personnes. Donc essayez de trouver la formule pour généraliser, pas faire un cas personnel, puisqu'une fois de plus, je vous rappelle, ils n'ont pas vos dossiers, donc ils ne pourront pas vous répondre. D'accord ? J'ai été clair ? C'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si vous êtes timide, vous pouvez aussi écrire votre question sur un petit morceau de papier qui est théoriquement dans le dossier. Donc vous écrivez. Écrivez assez gros, parce que j'ai de plus en plus de mal à voir. Je veillais aussi, moi, donc voilà. Il faudra qu'on fasse un jour un truc sur les yeux, ce serait pas mal. Vous avez donc dans vos mains également des documents qui vont compléter tout ce qu'on va vous dire. Et puis, il y a une fiche d'évaluation. Alors, cette fiche est très importante parce qu'elle va nous permettre à nous de faire évoluer ce rendez-vous. Donc, surtout, n'oubliez pas de nous le remplir à la fin et de le donner à nos hôtesses qui seront à l'extérieur et qui les récupéreront pour vous. Donc, vous mettez ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé que l'animateur était sympa, je sais pas, enfin, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'éteindre vos portables aussi, s'il vous plaît, pour pas qu'on soit dérangé par les sonneries. Vous pouvez le mettre en vibreur, c'est pas grave. Alors, quel cancer ? Quel facteur à risque ? Le dépistage, le traitement, on verra également où en est la recherche, le rôle de chaque intervenant. Voilà en gros ce qui sera donc les points qui seront développés au cours de cette soirée. Il faut savoir que le cancer ORL est le 5e cancer le plus fréquent en France et nos spécialistes vont vous en dire plus que moi. Bienvenue donc à cette 101e conférence Pôle Info Santé ici à l'Espace Mendès France. Je vais vous proposer de découvrir nos intervenants. Il y a le professeur Xavier Dufour, chef de service ORL chez au CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Le docteur Thierry Germain, praticien hospitalier, radiothérapeute au CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et j'ai gardé la meilleure pour la fin. Catherine Baudou, infirmière coordinatrice en ORL au CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Je vous propose tout de suite de démarrer donc ce rendez-vous Pôle Info Santé. Je vous laisse la parole.
Merci. Alors, donc, je vous remercie pour votre présence, pour tous ceux qui ont pu se déplacer pour cette soirée. Je vais vous parler avec mes collègues de la cancérologie ORL et on va pouvoir donc par la suite échanger. Alors, c'est que ça clignote. Bon, c'est pas grave, il ne doit pas bien fonctionner, je pense. C'est pas grave. Donc au départ, cancer ORL, ça veut dire quoi ? Parce que ORL, c'est quand même large. Est-ce que c'est le nez, les sinus, la gorge ? Parce qu'on dit que c'est la gorge, mais c'est quand même très large. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cancer ORL ? Donc ORL, on n'entend pas ORL, tout ce qui touche la bouche. C'était pour... Ça clignote là, c'est pour ça. Après, la face interne des joues, donc tout ce qui est au niveau buccal, le palais... osseux, le voile du palais. Après, il y a la langue aussi. On peut avoir une petite lésion de la langue. Les amygdales. L'oropharynx, c'est toute la région située en arrière. Merci. Et puis après, si on descend un cran, on arrive au larynx. Donc tout ce qui est corde vocale, en général corde vocale. Et puis après, hypopharynx, c'est la région, on va dire, située entre les amygdales en haut, l'œsophage en bas, et puis on a l'hypopharynx entre les deux. Donc ça, pourquoi je les ai mis ensemble ? Parce que ça regroupe un ensemble avec le même type histologique, c'est-à-dire que quand on va faire de la biopsie et qu'on va pouvoir analyser sous microscope, on retrouve le même type anatomopathologique. Et puis après, en ORL, on a tout ce qui est fosse nasale, sinus, nasopharynx, qui s'appelle cavum, mais ça ne vous dit rien comme ça, mais comme j'ai prévu des petits schémas pour vous montrer, vous allez comprendre. Donc là, une bouche, alors je disais, voilà, le voile du palais, la luette, les amygdales là-bas, ensuite la langue, l'oropharynx, c'est toute cette région là-bas derrière, et puis après, si on soulève la langue, en fait, on a de la muqueuse, hein, donc ça s'appelle le plancher de la bouche, et donc on peut aussi avoir au niveau du plancher buccal. Et puis on a les faces certaines des joues là et là. Donc voilà, pour tout ce qui est cavité buccale, cavité orale. Alors, une vue après plus sagittale, où on a là encore, voilà, la langue, le palais, le voile du palais. Et puis après, on descend d'un cran, on va avoir le larynx qui est ici, avec les cordes vocales ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe un carrefour aérodigestif entre donc une espèce de communication entre tout ce qui est respiratoire ici et digestif ici. Et ce qu'on appelle hypopharynx, eh bien, c'est la région en fait pharyngée entre l'œsophage qui est là et la partie haute ici. Et puis après, on parlait des sinus. Donc on a le nez ici. Donc dans le nez, ce n'est pas juste deux grands on va dire couloirs. Hein. Il y a des reliefs qui s'appellent des cornets. Donc on a le cornet inférieur ici, cornet moyen là, cornet supérieur là. Et puis on va avoir un des sinus profonds qui est le sphénoïde. Et un ici devant, le frontal. Les autres, on ne les voit pas parce que c'est une coupe sagittale. Et je parlais tout à l'heure du cancer du nasopharynx ou cavum. Eh bien, c'est cette région-là. Donc voilà pour situer un petit peu grossièrement les lieux. Parce que ORL, c'est quand même large. Donc on va dire que si on a un cancer des sinus, ce n'est pas la même chose que le larynx. Donc c'est pour bien situer les éléments. Alors là, pour le larynx, parce que par la suite, si on va parler des traitements et autres et des conséquences surtout, eh bien, il faut un peu comprendre comment c'est fait au départ. Donc on a un petit os ici qui s'appelle l'os hyoïde, qui est juste sous la mandibule et qui permet d'attacher certains muscles. Après, le larynx, c'est tout ça, une vue externe, avec le cartilage thyroïde qui donne ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Là, c'est le relief que l'on sent. Et en dessous, on a un autre cartilage qui permet de faire la jonction entre la trachée qui est en dessous et le cartilage thyroïde qui est là. Les cordes vocales, si on doit les placer, en fait, elles sont situées à ce niveau-là. Et puis par-dessus, on a la glande thyroïde et puis donc la trachée en dessous. Donc voilà pour tout ce qui est larynx, vue extérieure. En revanche, à l'intérieur, comment c'est fait ? Ici, donc on a, une fois qu'on descend, je vais remonter un cran. Voilà, quand on est dans la bouche, on est ici. On descend tout doucement, on a la base de la langue. Et après, on a ici ce petit relief qui est l'épiglotte. Et après, on a les cordes vocales. Alors, si on se remet là, voilà ici l'épiglotte. Le patient est allongé là, sur le dos, endormi. Et on a l'épiglotte. Et donc, on devrait normalement avoir, là ici, ça va bouger, voilà. Donc, on voit qu'on se met, voilà les cordes vocales, ici, voilà. Donc, on descend. C'est un examen qui permet de bien regarder. Et on voit après la trachée, qui va se diviser en deux après, en branche-souche à droite et à gauche. Donc ça, c'est un examen que l'on fait systématiquement, endormi, pour faire un bilan complet. Donc là, il n'y a rien du tout, mais c'est pour montrer l'anatomie normale, où on voit très bien les cordes vocales, avec l'épiglotte ici, et on a l'hypopharynx qui est derrière. Alors après, au niveau sinusien, qu'est-ce que nous avons ? On a, vous connaissez les sinus maxillaires qui sont situés sous les cavités orbitaires, là. En haut, le frontal. Et on a l'ethmoïde, en fait, qui n'est pas comme un sinus, une cavité comme le maxillaire ou le frontal, mais c'est plutôt des alvéoles, comme on va dire des nids d'abeilles, un nid d'abeilles avec plein de petites alvéoles. Et donc tout ça forme un ensemble qui s'appelle ethmoïde. Donc là, de profil, On a encore donc le palais osseux et le voile du palais, là, les cornets inférieurs, cornets moyens, cornets supérieurs, et au fond, le sphénoïde, le frontal, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, pour dire qu'il y a quatre sinus, on a quatre sinus, maxillaire, ethmoïde, frontal et sphénoïde. Le sphénoïde étant le plus central, le plus profond. Encore une autre vue pour montrer, voilà, les maxillaires, l'ethmoïde ici, et les frontales, le frontal là-haut. Le nez, la cloison nasale. Et donc là, on voit bien les cornets inférieurs, moyens et supérieurs. Et là, c'est pour voir la relation un petit peu entre, voilà, le sphénoïde, c'est là, l'ethmoïde, c'est ça. Donc, comme des nids d'abeilles, là, voilà. Il y a donc une relation importante entre le nez ici et le cerveau au-dessus. Et puis ensuite, on descend d'un cran et on a là la langue, la base de langue, après l'épiglotte, comme on a vu tout à l'heure dans le film, là, et les cordes vocales ici. Et après, l'œsophage en dessous. Alors, tout à l'heure, on disait que cancer en RL, donc c'est le cinquième cancer, donc le plus fréquent en France, et le septième en mortalité, parce que il faut aussi en tenir compte. Et donc, on observe une augmentation de l'incidence mondiale du cancer de la tête et du cou. Au cours de cette dernière décennie, on voit une augmentation significative au niveau du mondial des cancers ORL, tête et cou, et principalement chez la femme. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un retard, comme l'intoxication à le voir, c'est principalement tabac, alcool, tabac, que les femmes se sont mises à fumer plus qu'auparavant. Donc maintenant, on voit une augmentation de l'incidence de ces cancers chez les femmes. Alors, on dit qu'à peu près 650 000 nouveaux cas chaque année, qui représentent quand même 350 000 décès. Et puis, en 2010, 14 000 nouveaux cas de cancer en RL en France. Donc, en 2010, on a estimé 14 000 nouveaux cas. Donc, c'est quand même pas si rare que ça. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Les médias, on entend le côlon, le poumon, le sein. Mais l'ORL, ça fait quand même un peu peur, donc on n'en parle peut-être pas trop. Alors, ça, c'est l'incidence pour voir par rapport au niveau de l'Europe. La France est là, donc on est quand même dans la fourchette presque la plus élevée, parce que la plus élevée, c'est en rouge, là. Donc nous, on est en orange, là, donc en comparaison avec ici l'Espagne et puis la Russie, ici. Mais par exemple, par rapport à l'Italie, on est quand même au-dessus. Donc ça, c'était pour larynx, cavité orale, pharynx, tout H confondu. Et puis là, pour 100 000, comment ?
Les hommes et les femmes.
Voilà, au niveau hommes et femmes. Alors là, par région en France, donc plus c'est foncé, plus il y en a, au niveau de lèvres, bouche, pharynx, hommes, femmes. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités en France, entre ben, le nord, la Bretagne, et puis après ici, le sud. Quoi. Tout ce qui est bouche, pharynx, homme, femme, et puis larynx. Bretagne nord aussi, pareil. On voit que peut-être un peu plus de larynx au niveau de la région sud-centre par rapport au pharynx, mais on voit quand même qu'il y a une petite hétérogénéité entre le nord et le sud. En revanche, là, pour la femme, on voit plus de... Il y a plus de cancer de larynx chez la femme dans le sud que l'homme, par exemple. Alors, facteur de risque, c'est association alcool-tabac. Tabac seul, c'est un facteur de risque. Alcool seul aussi, mais quand on prend les deux, ça, les risques se multiplient. Ce n'est pas une addition. Si on a deux et deux, ça ne fera pas quatre. Bon, c'est un mauvais exemple parce que deux fois deux, ça fait quatre. Mais si on a trois, par exemple, pour l'un et puis... 2 pour l'autre, ça fera pas 5, mais ça fait 3 fois 2, 6. Les risques se multiplient. Alors, pour l'amygdale, on a un autre facteur de risque qui est actuellement reconnu. Depuis un certain nombre d'années, il y a plusieurs chercheurs qui ont analysé certaines choses. On a remarqué que le virus HPV, qui est connu pour facteur de risque de cancer du col chez la femme, eh bien, on a remarqué que pour l'amygdale, eh bien, on remarque une augmentation de cancer en rapport avec ce virus HPV. Donc, si on fait une détection de virus dans les tumeurs, dans 50% des cas, on va retrouver ce virus. Pour l'amygdale. Sinon, pour le reste, moins. C'est vraiment surtout pour l'amygdale. Donc, le groupe, tout ce qui est bouche, pharynx, larynx, c'est alcool, tabac, y compris l'amygdale, mais particularité de l'amygdale, c'est qu'il peut y avoir que virus HPV. Donc, on peut avoir des cancers d'amygdale chez des patients qui n'ont pas ni d'intoxication tabagique ni éthylique. En revanche, il y a la présence de ce virus. Et puis, pour l'ethmoïde, facteur de risque, eh bien, c'est poussière de bois. On sait que cancer de l'ethmoïde, qui est ce sinus-là assez haut situé, juste en dessous du cerveau, eh bien, le facteur de risque, c'est les poussières de bois. Donc, tous les ébénistes, menuisiers, etc., il faut quand même le surveiller de près, parce qu'on sait qu'ils vont... Ils peuvent développer ces cancers de l'ethmoïde. Donc, il faut faire un examen au moins une fois par an pour contrôler. Et puis, avoir des masques pour inhaler le moins possible de poussière de bois. Et puis, que les pièces soient bien ventilées de façon à éliminer la concentration de poussière dans l'air ambiant. Donc, tout ce qui est bouche, pharynx, larynx, on va dire que c'est alcool, tabac. Et autre facteur de risque pour l'ethmoïde, c'est les poussières de bois, donc les menuisiers, les ébénistes. Alors, après, on va dire, d'accord, bon, mais quels sont les signes? Comment je vais éventuellement dire que peut-être que j'ai quelque chose qui ne va pas? Pour tout ce qui est bouche, joue, langue, amygdale, oropharynx, hypopharynx, donc voilà, des petits signes là, qui vont alerter. Donc si en avalant, on a une petite douleur, c'est-à-dire que ça accroche un peu, on a un peu mal, ou que la voix commence à changer, alors... On peut avoir une laryngite, hein, je veux dire qu'on a des virus. Là, en ce moment, il y a plein de virus. On peut avoir une modification de la voix. Mais dans les 15 jours, 3 semaines, l'affaire est réglée. Maintenant, si ça persiste, d'ailleurs, vous avez pris, je pense, devant là, les petites plaquettes, là, où c'est noté, si vous avez plus de 3 semaines un symptôme, alors il faudrait peut-être consulter. Donc, douleur en avalant, modification de la voix, difficulté pour avaler. Si on est obligé de couper ses aliments en petits bouts parce que ça ne passe pas, ou de manger plutôt des yaourts que des bouchées de pain, il faudrait peut-être consulter. De même, si on a des douleurs au niveau des oreilles, ou parfois, on n'a aucun signe, mais on sent une petite boule dans le cou, donc il faut a priori consulter parce que c'est un ganglion. Alors après, on peut avoir des ganglions parce qu'on a une virose, mais si ça persiste, il faut quand même avoir un avis spécialisé. Pour tout ce qui est sinus, cavité nasale, on peut avoir une obstruction nasale unilatérale, donc on a le nez bouché que d'un côté, mais ça persiste. Alors on peut être enrhumé, on a le nez bouché, mais si ça persiste au-delà de 3 semaines, il faut consulter. Et si on a toujours un petit saignement quand même qui persiste du côté où c'est bouché, il faut quand même se poser des questions, donc il faut consulter. Donc voilà les signes d'alerte. Pour tout ce qui est d'un côté le groupe pharynx, larynx, cavité buccale, hypopharynx, et l'autre groupe, fosse nasale, sinus et nasopharynx. Alors, une fois qu'on voit les patients en consultation, donc ils viennent pour un signe, donc on essaye de voir s'il y a d'autres signes associés, et après, bon, on va regarder, hein, donc c'est pour ça qu'on fait l'examen complet, dont l'examen endormi que je vous ai montré, et puis après, il va falloir faire un bilan de l'extension, parce qu'il y a ce que l'on voit, mais après, il y a ce qu'il y a derrière. Tout ce qui est profond, on ne le voit pas forcément. Et puis après, si on veut analyser au niveau poumon, foie et autres, il faut quand même faire des examens. Donc, quels sont les examens que nous demandons dans le cadre du bilan? Scanner du cou, pourquoi? Parce que ça permet de voir en profondeur, si on voit une masse au niveau de l'amygdale, de la langue ou autre, il faut voir en profondeur quelle est l'extension. Et puis, est-ce que oui ou non, on a des ganglions? Parce qu'on peut ne pas en sentir, mais finalement, au scanner, on les voit. Donc, c'est le scanner qui prime. Hein. Et puis, les poumons, pour voir si, comme c'est facteur de risque tabagique, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième cancer associé? Ou alors, est-ce que d'emblée, le patient a des métastases pulmonaires? Donc, ça, c'est le bilan systématique cou-poumon. Et puis, on demande aussi maintenant un TEP scanner. C'est un examen qui permet en fait de faire un bilan corps entier. On va injecter dans les veines du glucose marqué avec du fluor. Donc le fluor, ça va être le traceur. Et puis on va l'injecter. Et toutes les cellules qui vont consommer le glucose vont capter, donc le traceur, vont capter le produit qu'on injecte. Donc, si on a une tumeur sur le larynx, par exemple, eh bien, ça va fixer sur le larynx. S'il y a un ganglion, ça va fixer sur le ganglion. Et puis, ça permet de voir si ça fixe sur le poumon ou ailleurs. Donc, ça permet de faire un bilan général, corps entier. Et puis, c'est métabolique. Ça veut dire qu'on peut voir une petite lésion au scanner qui n'est pas énorme, mais finalement, au TEP, ça fixe de façon intense. Donc, ce serait quand même en rapport. Après, on fait quand même une radiographie des dents, panoramique dentaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument avoir les dents en bon état pour, par la suite, si nécessaire, bénéficier de la radiothérapie. On en parlera après. Et puis, une fois qu'on fait ces examens-là, eh bien, on fait à nouveau, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un examen sous anesthésie générale qui permet de refaire le point complet, puisque l'examen en consultation, bon, c'est très bien, mais après, il faut refaire la même chose endormi, de façon à examiner de près et à pouvoir faire des prélèvements, des biopsies, puisque c'est la seule façon de confirmer à 100%, c'est la biopsie. On n'a que, à la consultation, on voit quelque chose, on a un doute, même si on a un doute qui est fort, mais à 100%, le diagnostic sera de certitude après avoir eu la biopsie. Et puis, dans le même temps, quand le patient est endormi, on aura fait la radiographie des dents. Si les dents sont en mauvais état, eh bien, on les enlève, puisque le patient dort. Ça évite qu'il aille chez le dentiste, avoir des piqûres pour enlever les dents. On les enlève dans le même temps. Maintenant, si elles peuvent être traitées, eh bien, le dentiste alors pour les traite avant la prise en charge. Alors, après, une fois qu'on a fait l'examen clinique, le bilan, il va falloir qu'on fasse le point, une synthèse. Et donc, cette synthèse, on l'a fait en réunion de concertation pluridisciplinaire, où, en fait, c'est une réunion de tous les intervenants qui s'occupent de cancérologie. Donc, il y a le spécialiste d'organes, donc si c'est l'ORL, eh bien, donc j'y suis. Sinon, après, il y a le radiothérapeute, il y a l'oncologue médical, on a le radiologue, mais on peut avoir aussi parfois le médecin anatomopathologiste qui analyse les biopsies, qui est là. Et puis, on a l'infirmière coordinatrice qui a un rôle majeur lors de cette réunion. Pourquoi ? Parce qu'elle permet, en fait, de coordonner tous les intervenants. S'il faut un rendez-vous pour tel ou tel médecin, s'il faut un examen en plus, elle va pouvoir coordonner, prévenir le patient, le médecin traitant, etc. Et ça permet donc d'avoir une espèce d'unité et que les choses se passent correctement. Donc, chaque traitement est décidé au cas par cas. On ne peut pas dire que pour telle chose, on fait tel acte, puisque chaque patient est un cas à part et qu'il faut adapter en fonction du cas. On ne peut pas dire, oui, mais lui, il a eu ceci, ma voisine a eu ça. Chacun est à part, donc on ne peut pas généraliser. Donc, c'est toujours au cas par cas. Et donc, voilà les traitements qu'on peut proposer, pas détaillés, mais on peut proposer d'une façon générale soit une chirurgie seule, si c'est une petite lésion qui n'est pas très grosse et que l'extension est minime, chirurgie seule. Sinon, on a chirurgie et rayon derrière, ou alors chirurgie plus rayon et chimiothérapie en même temps, ou parfois, ça marche très bien, que la radiothérapie seule, ou alors c'est radio-chimiothérapie en même temps. Donc voilà tous les principes thérapeutiques qu'on peut proposer en fonction du patient, donc de l'état général, du bilan aussi qui a été fait avant. Donc on discute, et après on propose au patient, mais on n'impose rien. C'est le patient finalement qui, s'il ne veut pas telle chose, on ne le fera pas. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne fait que proposer quel est le meilleur traitement. Après, c'est le patient qui décide, même si bon, on va quand même bien lui expliquer, mais c'est quand même le patient qui décide au final. Alors, la surveillance, une fois que le traitement est fait, il faut quand même surveiller les gens, parce que sinon, moi, ce n'est pas la peine de traiter si on ne surveille pas. Il faut quand même absolument surveiller de façon à pouvoir détecter. Malheureusement, ça peut revenir, donc il faut quand même détecter ça. Et puis, est-ce que les traitements, il y a certaines complications qui font que, eh bien, il faut quand même les détecter. Donc, il y a des surveillances régulières. Et tout doucement, on espacera. Donc, la première année, c'est tous les 2 mois. La deuxième année, c'est tous les 3 mois. Après, on espace tous les 6 mois. Et au bout de 5 ans, tous les ans. Et puis au bout de 10 ans, quand ça va bien, on dit, bon, alors une fois tous les 2 ans, bah, on discute avec le patient. Le patient qui est un petit peu stressé, on peut dire, bon, bah, on continue à vous voir tous les ans. Mais en général, au bout de 10 ans, on va considérer que l'affaire est réglée. Et puis, il faut quand même une imagerie. Donc, on fait une imagerie 4 mois après la fin du traitement, parce que ça permet d'avoir une imagerie de référence. Et puis, si on doit faire une autre imagerie plus tard, elle pourra être comparée par rapport à la première. Et donc, nous, au CHU, on a des consultations communes d'ORL radiothérapie, où là encore, on voit les patients, soit le radiothérapeute, soit l'ORL, et puis l'infirmière coordinatrice est là aussi, s'il y a besoin d'un examen, s'il y a besoin d'avoir certains, comment dire, du matériel médical pour certains patients, eh bien, l'infirmière coordinatrice est là, de façon à pouvoir faire le lien entre les soignants, le patient et aussi le médecin traitant. Donc, le parcours du patient, après je vais passer la parole à mes collègues parce qu'on dit tout et puis moi je n'aurai plus rien à dire. Donc, en général, donc, c'est le patient, comment il vient chez nous, souvent par le médecin généraliste. Hein, le patient voit son médecin, voilà, j'ai un peu mal à la gorge, donc au départ, bon, ça peut être viral ou autre, donc on traite. Mais si ça persiste et puis s'il y a des facteurs de risque, eh bien alors le médecin va adresser vers l'ORL. Donc l'ORL va faire l'examen complet, va demander les examens complémentaires. Et puis par la suite, on fera la synthèse en RCP en disant, voilà, on va proposer tel traitement. Et puis après, on voit avec le patient quel traitement est le plus adapté pour son cas. Et après, eh bien, la surveillance faite par l'ORL, le radiothérapeute. Mais le médecin traitant aussi peut aussi prendre en charge la surveillance. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas l'équipement que nous avons, mais il peut quand même participer à la surveillance. Il ne faut pas les mettre de côté. Hein. Je veux dire que les médecins traitants, si finalement il y a une douleur qui apparaît ou quelque chose d'un peu anormal, alors le médecin traitant peut nous contacter et puis on revoit le patient dans des délais assez raisonnables pour pouvoir juger si, oui ou non, est-ce qu'il y a un problème particulier ou alors non, c'est des suites normales du traitement puisque parfois il y a quand même certaines complications. Donc je vais passer la parole au docteur Germain pour qu'il puisse un petit peu lui présenter son point de vue de radiothérapeute.
Bon, je vais commenter un petit peu ce qu'a dit Xavier Dufour, qui est quand même un bon résumé quand même des choses. Alors, il y a premier commentaire, je vais parler surtout de la radiothérapie. La radiothérapie, il faut l'introduire. Il y a des notions de base qui sont générales et qui ne sont pas uniquement fondées sur la radiothérapie. Quand on propose un traitement à un patient, c'est comme quand on rentre dans une location, on a fait avant l'état des lieux. C'est-à-dire que quand vous cherchez un appartement, vous pouvez avoir envie d'avoir un studio au rez-de-chaussée, un F3 au troisième étage, avec ou sans ascenseur, ou une villa. Bon, c'est des choses extrêmement différentes. Ce qu'il faut déjà se dire quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est que quand on propose tel type de traitement ou tel type de traitement, ce n'est pas parce qu'on trouve un tel sympathique ou l'autre antipathique qu'on propose telle chose plutôt que telle autre. On essaye, nous, de se baser sur un bilan, ce qu'on appelle le bilan pré-thérapeutique, qui fait un peu l'état de lieu des choses. Et si on propose une chirurgie à un patient d'abord, ce n'est pas parce qu'on a envie d'être débarrassé de trucs, ça va plus vite. Si on propose une chimiothérapie avant ou pendant, c'est parce qu'il y a des raisons médicales. Le rôle d'un médecin au départ, ce n'est pas d'embêter le patient et ce n'est pas de montrer son pouvoir et sa puissance. C'est-à-dire que là aussi, parfois on a l'impression qu'on a en face de nous, c'est rare, hein, mais ça existe des gens qui disent, ah ben ouais, mais lui, il me fait ça parce qu'il veut m'embêter, etc. Il y a des fois Bon, en général, quand on propose un traitement dans les pathologies ORL, c'est pas toujours rigolo. Hein. Si on fait ça, on a aussi de temps en temps un cœur qui bat. Si on propose certaines choses, on sait que si on le propose, c'est que c'est quand même la moins mauvaise solution. Donc, transition pour ça, la moins mauvaise solution, le meilleur moyen de ne pas avoir de séquelles d'un traitement, c'est de ne pas avoir à traiter le patient. Donc, dépistage et prévention, je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est que il y a, sur la partie un peu basse, là, pas où il y a le cerveau après, le tabac et l'alcool. Je vais parler plus du tabac que de l'alcool. Parce que l'alcool... on voit les conséquences pratiques, c'est-à-dire si on exagère un peu trop sur l'alcool, on le sent tout de suite, on n'est pas clair, on ne marche pas droit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le tabac, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux. C'est vicieux parce que sur le moment, on ne voit pas le danger. À 12 ou 15 ans, on se met à fumer. Et le tabac, un jour ou l'autre, on paye la facture. Et la facture, c'est peut-être 20 ou 25 ans après. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très vicieux. Et la prévention, ben justement, ça permet d'éviter l'apparition, ne pas avoir... Moi, personnellement, je serais très content d'être au chômage, de ne pas avoir à traiter de patients, parce que, justement, il n'y a plus de... Bon, il y a des cancers, on ne sait pas les prévenir. Le cancer de la prostate, qui est un cancer fréquent, on ne sait pas comment l'éviter. Les cancers des voies aérodigestives supérieures, les cancers du poumon, on pourrait en éviter pratiquement 70%. Donc c'est un peu ralent de se dire on va travailler, parce que bon, c'est vrai que pendant ce temps-là, les gens qui ont fumé, ils ont payé des taxes à l'État, ça permet de diminuer le déficit de la balance, bon, très bien. Mais enfin, c'est quand même un petit peu dommage de se rassurer avec des arguments comme ça. Donc attention, le tabac, c'est une vacherie sournoise, encore plus sournoise que l'alcool. Et il y a deux choses quand même que là aussi, il faut insister par rapport au tabac, c'est que premièrement, on ne se rend pas compte du danger sur le moment, on paye toujours la facture. Et d'arrêter de fumer, c'est toujours quelque chose de positif. Parce que le tabac, on dit tabac et cancer, mais tabac et cancer, tabac et maladies cardiovasculaires, tabac et complications post-opératoires, etc. Bon, par rapport au cancer du poumon, c'est d'autant plus vicieux, on peut avoir arrêté de fumer 25 ans avant, on peut quand même faire un cancer du poumon. Sur l'ORL, c'est déjà plus rapide l'effet. Sur les maladies cardiovasculaires, c'est encore plus rapide. Sur une opération, c'est 2 mois. Si on arrête de fumer pendant 2 mois avant une opération, on a des suites opératoires de quelqu'un qui n'a pas fumé. C'est quand même vachement important, ça. Plutôt que d'avoir des suites opératoires avec des problèmes de cicatrisation, il y a des moments, ça vaut le coup de faire des efforts. Après, je ne dis pas que c'est facile d'arrêter de fumer. Deuxième commentaire que je veux faire, c'est qu'il y a une chose, il y a des irresponsables actuellement qui ont pignon sur rue, qui parlent du cannabis, qui parlent de légaliser le cannabis. Le cannabis, c'est encore plus dangereux que le tabac. Seulement le problème, c'est dans 20 ans qu'on saura la facture. Bon, j'ai terminé pour le cannabis. Mais il y a des choses, c'est le meilleur moyen déjà d'éviter, d'avoir un bon pronostic d'un cancer, c'est de l'éviter. L'ethmoïde, on sait très bien, c'est pas amusant, mais quand on voit un cancer de l'ethmoïde, on pose la question au patient, quelle est votre profession, il n'y a pas de problème, c'est soit un menuisier, soit un ébéniste, soit un collaborateur de menuisier. J'ai eu une dame un jour qui a eu un cancer d'ethmoïde et c'était son mari qui était ébéniste. Le problème, c'est que justement, c'est que toutes les législations préventives, des casques anti-bruit, des masques, etc., qui enquiquinent tout le monde, où on dit c'est pas pour moi, on le fait pour le respect sur les autres, mais après on paye la facture aussi. Donc attention, là aussi il y a des contraintes dans la vie de tous les jours qui sont utiles. On ne va pas parler de cancer ORL, mais quand on voit des gens sur le bord de la route avec un marteau-piqueur et qui n'ont pas de casque anti-bruit, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient sourds. Bon, eh bien, quand on voit des... c'est vrai que ce n'est pas pratique d'avoir un masque. Quand on fait de la menuiserie, il faut mettre un masque. Quand on fait quand on jardine et qu'on utilise des produits, on met un masque. Bon, ou on n'utilise pas de produits. Ça, c'est les écologistes. Mais ce n'est pas grave. Donc, attention... Il y a plein de choses qui sont des trucs de base, qui n'ont pas besoin de faire des trucs très savants, qui sont des trucs de bon sens, qui permettent déjà d'éviter l'apparition. Bon, alors je termine sur mes délires. On va parler un peu de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement majeur dans le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures, comme la chirurgie. La radiothérapie, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on fait tout notre bilan, on fait l'état des lieux et la radiothérapie peut avoir sa place, mais chez deux voisins du même âge, ce n'est pas forcément le même traitement qu'il y aura. Chez des gens qui ont exactement la même chose, mais l'un a 35 ans et l'autre a 85 ans, ce n'est pas la même chose que l'on fera. Donc il y a des moments aussi, il faut tenir compte dans la pathologie des cancers des voies aérodigestives supérieures, de l'état général du patient. Et c'est là où, après, là aussi, on revient avec la facture qu'on paye avec l'alcool, le tabac, etc. Il y a des gens, on sait qu'on va à la catastrophe si on pose certaines indications par rapport à d'autres. Je reviens à la radiothérapie. La radiothérapie, elle peut être faite soit isolément, on ne fait que de la radiothérapie. Il y a certains cancers où on n'a pas besoin du chirurgien pour le guérir, on peut le faire. Mais il y en a d'autres où on est content d'avoir le chirurgien aussi. Enfin, le patient surtout est content. La radiothérapie, elle peut venir après la chirurgie. Elle peut pas venir pendant, mais elle peut venir après la chirurgie. Cette radiothérapie, elle peut être faite avec de la chimiothérapie en même temps. Bon, il faut bien se dire qu'un chirurgien... Quand il enlève un organe, on se rend compte qu'il y a des inconvénients. La radiothérapie, il y a des inconvénients aussi. Hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le chirurgien, il fait une cicatrice. Nous, on fait des cicatrices aussi avec la radiothérapie. Avec la chimiothérapie, on fait des cicatrices aussi. Enfin, il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires aigus où ce n'est pas rigolo pendant la phase de traitement. Heureusement qu'après, quand on dit aux gens, après, ça ira mieux et que souvent, ça va mieux, ils finissent par nous croire, mais sur le moment, en fin d'une radiochimiothérapie, je peux vous dire qu'il faut vraiment être bien accroché pour dire le médecin en face de nous, il ne nous raconte pas des histoires. Donc là aussi, la radiothérapie, c'est un parcours du combattant, c'est plusieurs semaines de traitement, avec des troubles digestifs, avec une gêne pour manger, avec parfois une gêne pour respirer, mais ça en général, on s'est débrouillé avant pour essayer de régler le problème. Parce que manger, on peut ne pas manger pendant quelques jours, respirer, ça, il n'y a pas de problème, c'est quand même important. Donc il y a quand même des choses, et alors il y a une chose sur laquelle je veux insister par rapport à la radiothérapie, c'est la mise en état de la cavité buccale. Si vous voulez, le problème qui se passe, c'est que si on fait ouvrir la bouche de 100 personnes dans la rue, on sera étonné de voir comment seront les dents des 100 personnes en question. Mais si on fait ouvrir la bouche de 100 personnes qui ont un cancer des voies érosives supérieures, en général, il est plutôt moins bien que la moyenne. Il y a 30 ans, c'était très simple. Les dents, pour ne pas avoir de caries, on les enlevait tous. Il n'y avait plus de dents, donc il n'y avait plus de caries. C'était bien. Bon, pour manger, c'était un peu moins bien quand même. Donc, actuellement, la mise en état de la cavité buccale est quelque chose qui est un accessoire. Mais c'est comme quand on fait l'état des lieux. Si on n'a pas la clé du verrou, eh bien, on ne rentre pas dans la maison. Eh bien, là, c'est la clé du verrou, la mise en état de la cavité buccale. Il faut traiter les dents. Il faut arracher les dents qu'on peut traiter. Et après... les dents qui restent, il faut faire en sorte qu'on n'ait plus jamais à y retourner. En tout cas, qu'on n'ait plus jamais à les arracher. C'est-à-dire qu'il faut être quand même assez strict sur l'état dentaire. Après, on applique ce qu'on appelle des gouttières fluorées. C'est un petit appareillage qu'on applique sur les dents, qui est un brevet de longue vie des dents. Parce que la radiothérapie, malheureusement, quand on fait de la radiothérapie, les glandes salivaires, elles sont dans le coin. Si on faisait de la radiothérapie au gros orteil, on n'aurait pas de problème au niveau des dents, mais ça ne serait pas un cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc, quand on fait de la radiothérapie sur la cavité buccale, on ne fait pas du bien aux glandes salivaires. On ne fait pas du bien aux glandes salivaires, donc la salive va être modifiée. La salive revient, heureusement, progressivement, mais elle est quand même modifiée à très long terme dans sa composition et elle n'a plus son rôle protecteur de la carie, et donc elle favorise des caries. Donc il est absolument indispensable de faire cette application de ce petit appareillage qui s'appelle les gouttières fluorées. Et ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas que pendant le traitement. À la limite, c'est pendant le traitement où c'est le moins important. Parce que pendant le traitement de radiothérapie, il y a une irritation, on a du mal à les mettre. Moi, personnellement, je préfère lâcher du lest, que les gens ne le mettent pas pendant le traitement, mais par contre, le mettre après. Et après, ça veut dire à vie. Ça veut dire au moins 5 ans. Après, au bout d'un moment, il y a des gens qui en ont marre, mais le problème, c'est que moi, ce que je dis aussi souvent aux gens, vous lavez les dents, bon, ben, les gouttières, c'est pas pire que se laver les dents. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens où il faut là aussi bien les... Et ça, c'est le rôle après de l'infirmière coordinatrice aussi, de bien les cadrer, je passerai la parole après, parce que vouloir conserver des dents chez quelqu'un dont on sait très bien qu'il ne fera jamais ses gouttières fluorées, ça ne sert à rien, il vaut mieux les enlever. Il y a des moments où il vaut mieux être un cœur de pierre, parce qu'on sait que les complications à long terme, et je peux vous dire qu'une infection dentaire chez un patient irradié, ça peut se terminer par l'ablation de la mandibule. C'est quand même ennuyeux. Hein. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, personne n'est très à l'aise, y compris le médecin qui est en face. Hein. Donc ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup par rapport à la radiothérapie, c'est qu'il y a des séquelles, il y a des effets secondaires hein, aussi. C'est-à-dire que nous, on les voit quand même régulièrement pendant la radiothérapie. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo, mais c'est pour la bonne cause. C'est pas parce qu'on a envie d'enquiquiner les gens et de qu'ils aient du mal à manger. Et ce qui explique, dans certains cas, on soit amené à faire de façon provisoire ce qu'on appelle une gastrostomie percutanée, c'est-à-dire qu'on fait un petit trou dans l'estomac pour que les gens puissent manger, parce que là aussi, quel que soit le traitement que l'on fait, la dénutrition est quelque chose qui est très mauvais. La qualité des traitements, l'efficacité des traitements, il faut que ce soit des gens qui soient en bon état, un état nutritionnel. Donc pour la radiothérapie, je vais en rester un petit peu là. Je crois que, si vous voulez, il y a deux ou trois choses qui me tiennent à cœur quand même. C'est que, premièrement, le meilleur moyen de guérir d'un cancer des voies aériennes digestives, c'est de ne pas le faire. Donc attention, le tabac et l'alcool. Ceci étant dit, on ne refait pas le passé. C'est-à-dire que quand on se retrouve après confronté à ce genre de discussion, c'est pas la peine de situation, c'est pas la peine de culpabiliser. Le problème, c'est d'aller de l'avant. Donc il y a des moments, après, il ne faut pas être intégriste. Il y a des choses, il faut savoir composer avec chacun, parce que quand on dit arrêter de fumer ou arrêter de boire, c'est pas facile. Ça arrive de rechuter. Il n'y a pas de honte à ça. Le problème, c'est que, en tout cas, l'état d'esprit de nous, médecins, par rapport aux patients qui est en face de nous, c'est on est là pour aider. Et ce que disait Xavier Dufour tout à l'heure est très vrai. Nous, on a un rôle de conseiller technique, quelque part. On doit se battre pour essayer de faire accepter quelque chose qui nous semble utile pour la personne en face. Mais la personne en face, c'est quand même la personne qui est concernée qui a le dernier mot. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas réussi à la convaincre, eh bien, à la limite, c'est nous, il faut balayer devant notre porte. Peut-être qu'on n'a pas utilisé les bons arguments. Ceci étant dit, les gens ont le droit de refuser ce que l'on propose. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, en tout cas avec la radiothérapie, c'est que, premièrement, la radiothérapie, il faut la faire au bon endroit et à la bonne dose. Et il y a des fois, la dose, c'est forte. Des fois, les endroits, c'est quelque chose de volumineux. Il y a des progrès. Heureusement, moi, j'ai commencé à faire de la radiothérapie il y a 35 ans. Il y a 35 ans, c'était un peu... Ça manquait des fois de finesse. Mais on ne faisait pas que des bêtises. C'est-à-dire, des gens qu'on a traités il y a 35 ans, il y en a encore qui sont là pour dire qu'ils ont été guéris. On guérissait des gens. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut aussi se méfier du miroir aux alouettes, de la technicité, des choses... en particulier, il y a un danger... En particulier, il y a une espèce de mode, entre guillemets, c'est pas vrai, j'exagère un peu, mais de la chimiothérapie qui peut guérir mieux les cancers des voies aérodigestives supérieures. Il y a des fois, il vaut mieux faire une bonne laryngectomie chez quelqu'un qui sera capable de la supporter, et il y a des rééducations, il y a des gens qui reparlent après une laryngectomie, il y a des gens qui peuvent avoir une vie à peu près correcte. C'est pas rigolo, mais c'est des fois mieux que de faire une chimio pour garder un larynx et on n'est pas dans les bonnes conditions, on n'a pas les réponses qu'on voudrait et on se fait un petit peu ah ben oui, je veux pas qu'on me je veux pas, ou on se fait un peu un petit, on accepte des choses, des compromissions des fois quelque part. Et à ce moment-là, on fait des traitements qui après ont des séquelles, la main forcée parce que ce traitement, on n'a pas fait forcément le bon traitement au départ. Ils ont des séquelles où les séquelles sont plus importantes que si on avait fait le traitement radical d'emblée. Ça, je crois que là, il y a aussi une chose. Attention à cette truc de vouloir être conservateur à tout prix. Il y a des fois, ça vaut le coup. Il y a des fois, ça vaut le coup. Mais il y a des fois, si l'ORL vous dit « il faut vous opérer pour nous », pour moi, je pense que c'est l'opération qui est quelque chose qui est important parce que c'est ça où vous sauverez votre peau. Ce n'est pas parce qu'il avait opéré et qu'il veut avoir un portefeuille plus rempli à la fin du mois, c'est qu'il pense vraiment que c'est utile. Donc attention, c'est pas les gens qui passent de l'autre côté de la barrière, c'est jamais rigolo. C'est jamais rigolo, mais il faut reconnaître, il faut bien se dire que nous non plus, c'est jamais rigolo de proposer des choses qui sont... Et alors, il y a une chose, et ça va faire la transition avec Cathy Baudou, c'est que je pense qu'il y a plein d'à côté. Un patient ORL, c'est un patient avec sa vie personnelle, avec ses problèmes personnels, avec ses problèmes familiaux, avec ses problèmes professionnels, avec plein de choses. Et ça, c'est des choses où nous, médecins, on n'a pas forcément le temps de s'y attarder trop, et pourtant c'est quand même extrêmement important. Quand on voit les consultations communes d'ORL, de surveillance des patients, on pourrait très bien ne pas avoir ma voisine à côté. on se débrouillerait et ça durerait moins longtemps en plus, parce qu'on parlerait moins. Les patients, souvent, ils soulèveraient pas les problèmes et ils repartiraient avec leurs problèmes. Et tous ces à côté de la médecine, qui n'est pas de la médecine directe, de la chirurgie, de la radiothérapie, etc., c'est extrêmement important. Parce qu'après, le patient, lui, il vit 14 sur 24 avec ses inconvénients des traitements, etc. Nous, on est contents parce qu'on l'a guéri, mais il y a d'autres choses. Et c'est là où l'infirmière coordinatrice est quand même extrêmement importante. Le problème, c'est arriver à faire comprendre après aux gens qui nous gouvernent et qui nous payent que c'est important d'avoir une infirmière coordinatrice parce que c'est peut-être payé cher. Enfin, vous ne trouvez peut-être pas assez. Mais c'est peut-être payer cher quelqu'un parce qu'on pourrait très bien avoir un balayeur à côté qui nous fasse le portier, etc. Et non, c'est quand même extrêmement important parce que ces à côté non médicaux directs, c'est également extrêmement important dans la prise en charge des cancers des voies érodicives supérieures. Voilà, je me tais maintenant.
Merci. Donc, je vais passer la parole à Cathy Beau qui va un peu expliquer son rôle dans toute cette prise en charge des cancers ORL.
Je vous remercie. Moi, je suis la gentille organisatrice. Avec toutes ces misères qu'ils viennent de vous raconter, j'essaie que le parcours se passe bien. C'est-à-dire que j'interviens à différents niveaux, bien avant la chirurgie. J'interviens pour organiser le TEP scan, comme on vient de vous expliquer, tous les examens complémentaires, que ce soit fait dans un temps suffisamment raisonnable. Des fois ils sont un peu perdus aussi au moment de la consultation, on leur donne tout un tas d'ordonnances et j'essaie de revoir avec eux ça c'est votre ordonnance pour votre panoramique dentaire, là vous pouvez aller le passer, enfin j'essaie de les aiguiller, donc déjà ça minimise un petit peu les angoisses parce que souvent il y a un petit doute quand même quand ils sortent de la consultation, donc j'interviens à ce niveau là j'interviens aussi pour l'organisation de toutes les staffs de concertation pluridisciplinaires, avec là où il y a les radiothérapeutes, les ORL, les chimiothérapeutes. J'essaie d'organiser tout ça, que tous les dossiers passent bien à ces commissions, parce que c'est une obligation, c'est obligé de, que tous les dossiers passent dans cette commission. Bien sûr, après, je statue avec, je reprends tous les dossiers et je prends, s'il y a besoin d'un rendez-vous en radiothérapie, je prends le rendez-vous en radiothérapie. S'il y a une consultation d'annonce, il faut que je prenne le rendez-vous. Donc, je conclue toutes les je réalise toutes les conclusions qui sont faites au détour de cette réunion. J'interviens après à un autre moment qui me semble très très important aussi, et c'est là qu'on se connaît un peu plus, c'est quand l'indication au bout de cette concertation est chirurgie, la chirurgie, j'organise un hôpital de jour, et au détour de cet hôpital de jour, j'explique toute la chirurgie, j'explique aussi toutes les séquelles, et s'associe à moi les orthophonistes, la diététicienne et l'anesthésiste. C'est-à-dire que c'est une journée complète où le patient va être préparé pour sa chirurgie. On associe aussi, en fonction du type de l'intervention, on associe l'association des laryngectomisés. Ça existe dans toute la France, dans toutes les régions. Il y a une association des mutilés de la voix. Et ça, je le propose, je ne l'impose pas. C'est toujours le patient qui décide, lui, s'il veut participer à cette association, s'il veut rencontrer quelqu'un de l'association, voir un ancien patient par rapport à son parcours. Donc, moi, je les laisse libres. Et souvent, je n'interviens pas non plus dans leur entretien. Je les laisse vraiment échanger, je les présente et je les laisse échanger ensemble. J'essaie aussi de voir un peu au niveau social, parce que malheureusement, il y a souvent des milieux sociaux très défavorisés, ou des fois des gens qui sont jeunes et qui sont au chômage, des fois en fin de droit, qui n'ont pas le RSA, qui n'ont pas la CMU. Donc j'essaie de faire un petit peu le point au niveau social pour avoir un petit peu des financements dans cette prise en charge. Parce qu'il faut qu'ils payent leur loyer, il faut qu'ils payent aussi l'EDF, mais s'ils n'ont plus de travail ou ils n'ont plus de droit, il faut qu'on essaie de voir un peu, donc avec l'assistante sociale, je l'associe aussi. Et après, je n'interviens plus trop bien pendant la chirurgie ou pendant l'hospitalisation. Je laisse faire mes collègues. Je coordonne des fois s'il y a des petits oublis ou des choses, la radiothérapie. Il faut inclure la radiothérapie rapidement, les consultations, tout ça. Et après, j'interviens énormément dans la sortie du patient, où j'organise toute la sortie du patient avec l'infirmière libérale. Je les appelle toutes les infirmières libérales. Je leur explique ce qui s'est passé pendant cette hospitalisation. Je fais intervenir aussi des prestataires de services qui livrent le matériel que nous avons, nous, à l'hôpital pour le domicile. C'est à peu près l'équivalent, hein. J'appelle aussi les pharmaciens parce que c'est aussi un interlocuteur aussi privilégié. Parce que souvent, le patient, quand il a un souci, ben, il ne pense pas toujours à l'hôpital, il va des fois directement à son pharmacien. Et donc, après, j'interviens bien sûr, s'ils ont un souci à la maison, ils savent qu'il y a une personne. J'ai pas des fois, quand ils m'appellent, j'ai deux petites secondes de décalage, mais enfin, j'essaie d'avoir tout le monde sur mon disque dur. Et si c'est un problème de... alimentaire, oui, j'ai perdu, Cathy, là, j'ai perdu 2 kilos, 3 kilos. Bon, ben, est-ce que vous prenez bien encore vos poches de nutrition ? Enfin, il y a tout un questionnaire au niveau du téléphone, on discute ensemble. Et si ça relève vraiment de la diététicienne, dans ces cas-là, j'appelle la diététicienne et je fais un petit peu le lien avec, si c'est l'orthophoniste, eh bien, j'en parle à nos orthophonistes. Et c'est un poste qui fait le lien avec le problème et la solution. J'essaie toujours de répondre dans la journée, toujours, toujours, toujours. Et j'interviens toujours aussi au moment de la consultation commune, comme me disait M. Germain. Et là, je refais le point de tout au niveau du poids. Vous avez perdu du poids, vous portez bien vos gouttières. On refait, on se connaît déjà un petit peu. Il y a une espèce de climat de confiance qui s'est créé. Donc souvent j'arrive à me rappeler des situations familiales, alors je demande des nouvelles des enfants, je demande des nouvelles de tout le monde, donc ça crée un lien et une espèce de climat de confiance qui permet d'avoir une meilleure prise en charge. Voilà, mon travail.
Et tout ça, c'est un travail qui ne se voit pas mais qui est capital.
Ah oui, le rôle de Cathy là, est vraiment fondamental. Depuis le diagnostic jusque par la suite la surveillance.
Et bien sûr, quand il y a récidive, je les accompagne aussi au détour de la fin de vie, avec les soins palliatifs, je coordonne aussi tout ça. Et je travaille beaucoup aussi les soins palliatifs et le centre antidouleur un petit peu, mais beaucoup moins, plus l'équipe mobile de soins palliatifs. C'est un poste qui existe depuis 25 ans. À peu près.
Infirmière coordinatrice, ouais. Oui.
Ouais. C'est un poste qui a été créé par notre chef de service de l'époque, le professeur Fontanelle. Ça fait à peu près 25 ans. C'est un poste qui est intéressant parce que le cancer ORL vous prive tous les plaisirs de la vie. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à manger et vous avez du mal, des fois, à vous regarder dans une glace. Donc, vous êtes un peu désocialisé. Donc c'est un rôle, c'est un poste qui avait été créé justement pour avoir un interlocuteur privilégié qui vous connaît et vous n'êtes pas noyé dans la masse de tous les intervenants. Je ne vous connais pas, ah ben non, je ne sais pas qui vous êtes, ah ben non, pas toujours raconter sa petite histoire tout de suite, deux, trois minutes, deux secondes que le disque dur se recharge et puis c'est reparti pour essayer de répondre aux besoins. Voilà, je vous remercie.
Merci. Donc, je vais conclure en une minute en disant que les cancers ORL, donc la prise en charge, comme vous avez pu le voir, elle est pluridisciplinaire, hein, depuis l'ORL jusqu'au radiothérapeute, chimiothérapeute et puis l'infirmière coordinatrice. Et que donc, on réinsiste encore, c'est surtout le dépistage, hein, qui est vraiment c'est majeur, ce dépistage. Donc, vous avez les plaquettes qui expliquent vraiment si vous avez certains signes depuis plus de 3 semaines, alors il ne faut pas hésiter à consulter. Donc il y a des signes d'alerte, donc il faut aller voir son médecin généraliste, car le médecin généraliste fait aussi partie intégrante depuis donc, le dépistage, les signes d'alerte, et puis par la suite la surveillance. Bon, la surveillance a certains certaines mesures, puisque par exemple, pour voir un larynx, le médecin généraliste ne pourra pas le faire, mais il pourra toujours quand même conseiller pour est-ce que s'il y a certains signes ou autres, rassurer, ou alors sinon réorienter vers l'ORL. Donc retenez qu'il y a des facteurs de risque et que le dépistage est vraiment indispensable. Je vous remercie de votre attention.
Merci à vous trois. Alors, vous allez pouvoir bien sûr intervenir maintenant et poser vos questions si vous en avez. Moi, j'ai une première question à vous poser. On l'a compris, le rôle du médecin généraliste est un rôle primordial parce que c'est lui qui va être celui qui va prendre la température, entre guillemets, du patient et qui va pouvoir l'orienter. Donc, un rôle très important.
C'est le premier maillon au départ dans le parcours du patient. Le patient a une certaine gêne et par la suite, donc le médecin généraliste peut soit rassurer s'il considère que c'est viral ou autre, mais en revanche, si les signes persistent et que les facteurs de risque sont présents, alors il est là pour adresser le patient vers le spécialiste.
Est-ce qu'il y a un âge critique ? Il y a comme certains cancers où on dit attention, à partir de 50 ans, il faut...
Il y a des pics de fréquence, voilà, c'est on va dire 55-65. Mais on voit aussi séquencer ORL chez des sujets jeunes, moins de 35 ans, on en a eu, hein, moins de 35 ans, ou alors les personnes très âgées, à partir de 85 ans, par exemple. Mm-hmm. Vous voyez, le pic de fréquence, voilà, 55-65.
Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à vous lever la main, comme à l'école. Oui, j'arrive. Alors, je vous explique le rôle du micro, c'est pas pour vous faire chanter ou pour. C'est uniquement parce que tout ce qu'on se dit ce soir est enregistré, ce qui va vous permettre de le réécouter sur le site de l'Espace Mendès France et du CHU. S'il y a des moments où vous n'avez pas tout compris, vous allez pouvoir réécouter. Donc c'est pour ça que je vais vous embêter avec le micro.
Merci. Pardon. Bonjour. Alors moi, ma question, c'était une question plutôt personnelle. J'ai un proche atteint donc d'un cancer du larynx. Les cordes vocales sont touchées. Il est traité actuellement, il va entamer des séances de radiothérapie, chimiothérapie. Et j'aurais souhaité savoir, à l'issue de ce traitement, de ce protocole, qu'est-il envisagé ? Puisque la tumeur est volumineuse, est-ce qu'on passe ensuite auprès d'une chirurgie ou, voilà.
Alors, ça va être un peu difficile aussi de répondre parce que je n'ai pas le dossier.
Ouais, comme on disait tout à l'heure en préambule.
Mais d'une façon générale, on peut dire qu'une fois que le traitement est terminé, après, il y a quand même des consultations de contrôle pour voir où on en est, avec une imagerie qui est faite. Alors, pas trop près des rayons parce qu'il y a quand même un œdème, une inflammation qui va faire que les images seront un petit peu perturbées. Donc, on laisse passer un petit peu de temps. On va dire 3 mois après la fin des rayons, on fait une imagerie. On voit le patient avant, en revanche, en consultation, et puis on fait le point. Puis après, on voit.
Souvent, après une radiothérapie ou une radiochimiothérapie, c'est vrai que c'est une réflexion que font souvent les patients. Je revois dans 2 mois, on revoit les gens en général 6 semaines après la fin du traitement pour voir la régression des réactions aiguës, si vous voulez, des inconvénients. Et quand on fait une imagerie, il ne faut pas la faire trop tôt. Et c'est vrai que souvent, ça inquiète les gens de se dire on le fait si tard que ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent une efficacité qui est retardée du traitement entre le moment où on le fait et le moment où c'est efficace. Et si on le fait trop tôt, on peut voir des choses qui inquiètent de façon inutile. C'est-à-dire qu'à 2 mois après une radiochimiothérapie, il n'est pas forcément anormal que les examens d'imagerie ne se soient pas normalisés. Donc il faut savoir ne pas faire les choses trop tôt, ce qui n'empêche pas qu'il faut savoir faire les choses, parce que après l'intérêt d'une surveillance, c'est de pouvoir dépister une rechute, par exemple, et une rechute qui soit accessible à un traitement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut aussi savoir qu'il y a des moments où il faut savoir ne pas faire une surveillance trop rapprochée, parce que quoi qu'on fasse, on n'a rien à proposer. Donc ce n'est pas la peine aussi de faire rentrer les patients dans un contexte de maladie, de malade, de se sentir malade. Si vous voulez, il y a un moment, il faut savoir aussi oublier certaines choses. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire. ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas deux personnes identiques. Ce qui est, il faut se méfier de la maladie du voisin qui ressemble étrangement à celle qu'on a soi-même, qui est peut-être des fois très différente. Et des fois, c'est sur des nuances que peut être expliqué une rechute, un contrôle, pourquoi une chirurgie plutôt qu'une radiochimiothérapie. Donc attention, il faut se méfier des amalgames. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question plus précisément, sans avoir le dossier, il faut savoir ne pas vouloir aller trop vite, et il faut savoir quand même évaluer ce que l'on fait. Nous, de toute façon, quand on fait un traitement, il y a deux choses, en particulier après une radiothérapie, où il y a deux critères qui sont importants dans la surveillance, c'est évaluer ce que l'on a fait, c'est-à-dire que, en particulier, voir au niveau des séquelles des traitements, qui sont des choses qui sont des fois inéluctables, qui sont des fois très supportables, mais il est certain qu'il faut s'évaluer nous-mêmes aussi, parce qu'on peut, faire des erreurs, faire des imprécisions. Bon, il faut savoir aussi s'auto-évaluer. C'est une des intérêts de la surveillance, c'est-à-dire c'est pas pour le patient lui-même, c'est pour les patients suivants. Ce qui n'empêche qu'après, l'intérêt de cette surveillance, c'est d'évaluer le traitement lui-même, d'évaluer l'efficacité du traitement, savoir s'il y a quelque chose après, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ce quelque chose, c'est rien parce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que c'est une chimiothérapie parce qu'une chimiothérapie peut faire quelque chose? Est-ce que c'est un traitement chirurgical? Ce qu'il faut savoir en général, c'est que c'est exceptionnel quand on a irradié une zone, qu'on soit amené à y revenir, nous, dans la même zone. Sauf cas très très particulier, parce qu'en médecine, il ne faut jamais dire jamais ou toujours. C'est-à-dire que la généralité, c'est une chose, la réalité, c'est vraiment ce qu'on fait des traitements, ce sont des traitements qui sont vraiment très sur mesure, adaptés à chaque personne et au dossier. Mais pour terminer, pour résumer, si vous voulez, il y a toujours une surveillance, et cette surveillance, il faut savoir ne pas la faire trop tôt, en tout cas.
Oui. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Non. Une autre question?
Je vais vous tenir le micro. Merci. Ça serait plutôt un cas personnel. Enfin, vous avez dit que c'était pour les avocats.
Ou alors vous généralisez parce que personne n'a votre dossier médical. C'est ça le problème.
Mais on répondra de façon générale.
Vous essayez de répondre de façon générale, en tout cas.
Oui, bien moi j'ai été opéré d'un cancer d'une amygdale en 2001. Ensuite, le docteur Loirel qui m'a opéré m'a dit « Je pense avoir tout enlevé, mais pour sécuriser, il serait bon de faire de la radiothérapie. » Donc, j'ai écouté ses conseils. J'ai eu 33 séances de radiothérapie, faites d'ailleurs avec le docteur Germain ici présent, que je tiens à remercier. Je me souviens... Au bout de 30 séances de rayon, je lui ai dit, docteur, on ne pourrait pas laisser les trois autres. Il m'a dit ça, non, petit gars, c'est 33. Et bien maintenant, on est en 2014 et je suis toujours là.
Voilà. Je vais faire une réponse d'ordre général parce que votre question est quand même très intéressante. C'est que effectivement, on est dans ce qu'on appelle les traitements adjuvants, c'est-à-dire quand on arrive après une chirurgie. Et on arrive après une chirurgie et on ne peut pas affirmer à 100% que si on ne fait rien, le patient qui a été opéré rechutera. Alors, ceci étant dit, je suis désolé, je n'ai pas en mémoire le détail de votre dossier, mais si je vous ai fait 33 séances, c'est qu'il y avait des raisons de faire de la radiothérapie. Parce que ça, je sais ce que ça veut dire en termes de radiothérapie. Et si vous voulez, c'est le problème de ces traitements donc, associés qui sont d'ordre préventif. Si vous voulez, je prends deux ordres de comparaison quand j'explique les choses. Je vous l'ai peut-être déjà dit. On est sur le bord de la route, on est en voiture, on crève. On crève, on met la roue de secours. Si vous mettez la roue de secours, qu'est-ce que fait le chirurgien? Il vaut mieux avoir une roue de secours si on veut continuer à rouler. Mais si on ne serre pas les boulons, votre roue de secours ne ferait pas quand même une grande distance. Donc ça, alors là, il n'y a pas de problème, c'est là où vraiment serrer les boulons, c'est indispensable. Il est hors de question de partir avec une roue de secours, avec une roue desserrée. Alors je prends souvent une autre comparaison qui permet de ne pas raconter d'histoire aux gens en plus, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire quand on parle à quelqu'un de lui dire des choses qui sont fausses. Donc, moi, en général, j'élude le problème en justement essayant de donner des comparaisons qui font réfléchir et qui sont compréhensibles. L'argumentation que je donne, enfin, je dis, vous partez de chez vous, vous commencez par fermer la porte. Et puis après, vous donnez un tour de clé. Et puis après, si vous êtes anxieux, vous mettez votre alarme. Et puis, des fois, vous partez de chez vous, vous laissez la porte ouverte, vous n'êtes pas forcément cambriolé. Et puis, les plus grands musées du monde ont tous été cambriolés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en médecine, malheureusement, on peut dire jamais ou toujours. On peut jamais dire jamais ou toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent un traitement et puis 10 ans après, ils s'en adonnèrent, j'ai pas rechuté. Ouais, bah, oui, ils ont eu de la chance. Et il y a des gens, on a fait tout ce qu'il fallait et ils ont rechuté. Donc malheureusement, nous, on fonctionne avec des statistiques. Donc nous, notre savoir, il est un peu statistique et vous, votre demande, elle est individuelle. Donc il y a souvent une contradiction, c'est-à-dire, et c'est ce en quoi nous, notre boulot, c'est d'essayer de convaincre l'utilité. Si vous voulez, pour vous, vous vouliez arrêter 3 séances avant la fin. En général, je suis assez souple, mais sur ce genre de truc, je ne suis pas souple. Parce qu'on est dans la situation de la roue de secours mal serrée. C'est-à-dire que les 3 dernières séances qui manquent, c'est peut-être celles-là qui font la guérison. Parce qu'elles ont été précédées par toutes les autres. Parce que s'il n'y avait que les 3 dernières séances, là aussi, c'est pas... Mais il y a des moments où, effectivement, on n'est pas toujours à l'aise parce que... C'est vrai qu'après l'opération, pendant votre radiothérapie, vous avez dû déguster de choses pas très très agréables. Bon, je ne vais pas vous raconter les suites de la radiothérapie parce que vous le savez beaucoup mieux que moi pour l'avoir vécu. Ceci étant dit, c'était pas, je vous assure, ce n'était pas pour plaisir de vous embêter. Hein.
Oui, attendez, je vais arriver, monsieur. On nous demande s'il y a des facteurs génétiques et héréditaires pour les cancers ORL. Alors,
non, pour le cancer ORL, alors si on prend larynx, pharynx, cavité orale, bouche, etc., les facteurs de risque sont ceux que nous avons évoqués. Tabac, plus ou moins alcool. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amygdale, c'est le facteur de risque. Il y a alcool-tabac, mais il y a maintenant aussi le virus HPV. Mais héréditaire, génétique, non. En revanche, ce qu'on remarque, c'est ça peut être les modes de vie qui est héréditaire. Ce n'est pas la maladie en elle-même avec une maladie génétique, mais c'est le mode de vie qui se transmet de famille. Alors, on peut avoir le père, etc., parce que c'est le même mode de vie.
Alors, ceci étant dit, si vous enlevez le tabac, l'alcool et l'herpès virus, vous enlevez 95% des cancers des voies urodigiques supérieures. Ouais. Alors après, il y a toujours le pauvre type qui n'a pas de chance. C'est le type qui, le piéton qui est sur le trottoir et puis il y a un camion, un bus qui a un pneu qui éclate et qui lui éclate la tête. C'est arrivé à Bordeaux il y a quelques années, ça. C'est le coup, n'a pas de chance. Bon, alors on peut faire son cancer des voies urodigiques supérieures malgré le fait qu'on n'ait pas mérité. Alors, je n'ai pas dit qu'on mérite son cancer. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous voulez, les facteurs de... Souvent, c'est une... C'est un truc pour tous les cancers, hein, parce que ne parlons pas que des cancers des voies urodigiques supérieures, on accuse les facteurs génétiques, on accuse la pollution, on accuse les méchantes voitures qui font des particules au diesel, etc. Bon, il y a des choses, c'est pas tout à fait faux, mais c'est tellement minime en proportion par rapport à des trucs bêtes qui sont le tabac, l'alcool et l'herpès virus. Alors l'herpès virus,
si on rentre dans les détails, c'est human papillomavirus.
Excusez-moi, je fais un lapsus. Oui. Si on supprime tout ça, on se rassure en disant c'est le gasoil, c'est la pollution. La pollution n'a jamais été aussi faible en 2000 dans les pays occidentaux, merci les écologistes. Mais je vous assure que moi, quand j'étais gosse, que j'allais de Bordeaux à Marseille en train, je peux vous dire que quand on se mouchait, le mouchoir était noir de suie. Maintenant, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a des tartes à la crème qui sont des choses qui sont médiatiques et qui permettent à certaines personnes de ramener leurs fraises devant les médias. C'est très bien, mais tout ça, c'est vraiment minoritaire. C'est minoritaire. C'est comme l'alimentation. L'alimentation, si vous mangez correctement, une alimentation variée, sans exagérer, etc. Un, vous n'êtes pas obèse. Deux, vous ne faites pas certains cancers. Mais c'est tellement simple qu'il faut qu'on prenne des compléments alimentaires, il faut qu'on prenne des yaourts bio, il faut que... Bon, c'est pas ça la vraie vie. Donc, par rapport à la question, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques dans les pathologies, dans certains cancers ?
Certains,
le cancer du sein, oui, par exemple.
Ça,
on l'a individualisé, mais c'est extrêmement secondaire. C'est une très petite proportion, mais dans l'ORL, non.
Mais l'ORL, non.
Oui. Une autre question.
Oui, d'abord, je voudrais vous remercier tous les trois pour la clarté de vos exposés et puis pour l'humanité de ceci. Je viens moi-même donc d'être opéré d'un cancer de la parotide. On vient de me faire une ablation de la parotide il y a à la mi-octobre. Là. Des sacs ganglionnaires et puis d'une partie du sternocleidomastoïdien. Et je viens donc de subir 7 semaines de radiothérapie et 3 semaines de chimiothérapie. Donc la question que je voulais poser, c'est en fait, il s'avère que mon cancer de la parotide était une métastase d'un petit cancer qu'on m'avait enlevé dans l'oreille il y a un an, qu'on avait appelé une maladie de Bowen et qui était théoriquement une maladie in situ. On m'avait assuré que je n'entendrais plus jamais parler. Et quatre mois après, j'avais une douleur à la parotide. J'ai été revoir mon dermatologue qui m'a dit non, ça n'a rien à voir. Et puis en fait, ça avait quand même quelque chose à voir. La question que je poserai, c'est que effectivement, vous dites, et à très juste titre, que c'est un cancer excessivement éprouvant, où on perd beaucoup les plaisirs de la vie. Et j'ai pas le plaisir d'être suivi par une infirmière coordonnatrice parce que bon, il s'avère que mon médecin m'avait envoyé voir dans un premier temps un ORL à la polyclinique, donc je ne bénéficie pas du suivi de la coordinatrice, de l'infirmière coordonnatrice ORL. C'est vrai qu'on est quand même un peu seul, malgré la profusion de médecins, ou plutôt d'internes en médecine qu'on rencontre, mais bon, chacun fait au mieux son travail, mais enfin on demeure quand même très seul. Et à la fois pendant la période de radiothérapie, pendant la période de chimiothérapie, et puis là, j'en suis sorti depuis 15 jours, je pensais naïvement que j'étais au bout de mon chemin de croix, et je m'aperçois que le chemin de croix continue, puisque je continue à porter une sonde nasogastrique. Alors peut-être que le regret, c'est que, bon, je ne connais pas par définition les autres cancers, le regret, c'est qu'il n'y ait peut-être pas un soutien collectif, enfin un groupe de parole pour les gens qui ont ces pathologies qui sont, je sais là depuis le mois d'octobre que je traverse quand même une période excessivement difficile sur le plan physique, moral et humain. Hein.
Je voulais juste pour résumer en fait la question, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait, etc. Voilà. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais...
Alors, il y a toujours un espèce de lien qui se crée là, parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de consultations. Hein. Et quand je sens que là, il commence à avoir un lâcher-prise, je propose toujours, on travaille, nous, au niveau du CHU de Poitiers, avec l'unité l'UCMP, c'est l'unité de médico-psychologique, qui se situe à Henri Laborie. Et je propose ce soutien-là, et j'organise, bien sûr, après le rendez-vous. Alors, c'est vrai que nous, au niveau du service ORL, on n'a pas de psychologue. Quand il y a les assemblées...
On peut faire appel aux psychologues du CHU.
Du CHU, oui. Alors, vous avez la chance, entre guillemets, d'aller au pôle régional de cancérologie. Et au pôle régional de cancérologie, il y a des psychologues. Elles ont des psychologues que nous n'avons pas dans le service d'ORL. Et elles peuvent très bien vous accompagner dans votre parcours. Alors, si c'est après un partage que vous voulez avec d'autres patients... Là, c'est plus délicat parce que votre cas, il est un peu différent et il ne rentre pas dans les mutilés de la voix comme on peut traiter, je dirais, le plus souvent, c'est ce que l'on traite, les mutilés de la voix. Il y a cette association et aussi cette association permet de partager et vous pouvez acquérir un soutien auprès aussi de cette association. Mais là, vous avez la possibilité d'aller consulter une psychologue sur le PRC. Voilà, Est-ce que j'ai répondu à votre attente ou vous vouliez autre chose de ma part ?
Je voudrais faire un commentaire complémentaire qui va aller un peu dans le sens de ce que dit Cathy. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs circuits sur Poitiers, avec le circuit du CHU qui effectivement est quelque chose qui est rodé, puisque comme le disait Cathy, depuis 25 ans, M. Fontanelle avait lancé cette fonction d'infirmière coordinatrice. Ceci étant dit, c'est une façon de gérer le problème. Cette façon n'est pas forcément unique. C'est-à-dire que là, vous avez été pris en charge au niveau du PRC. Effectivement, il y a des psychologues au niveau du PRC. Donc, au niveau de l'accompagnement personnel, il y a des possibilités qui vous ont été proposées, qui ne vous ont pas été proposées. Ça, je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui vous suivez. Mais ces possibilités existent. Après, bon, ben, y a des gens qui le souhaitent, il y a des gens qui ne le souhaitent pas. Il y a une chose, en tout cas, avec ce que vous avez dit, c'est que vous êtes quand même un cas un peu particulier. Je suis désolé. C'est que vous êtes vraiment l'exemple qu'en médecine, il ne faut jamais dire jamais ou toujours. C'est-à-dire que lorsque vous avez été opéré la première fois, une maladie de Bowen, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui peut ne jamais donner de... Et si vous voulez, c'était le cas, et c'était logique la première fois de vous avoir dit « on ne fait rien de plus ». Alors après, quand il vous arrive ce qui vous est arrivé sur le coin de la figure au bout d'un certain temps, il y a de quoi se poser des questions rétrospectivement, et c'est tout à fait normal, il y a de quoi être déstabilisé. Et là, vous avez eu un traitement quand même qui est un traitement assez costaud. Si vous avez terminé il n'y a pas très très longtemps, rassurez-vous, les choses iront mieux quand même au bout de quelques temps, et que la sonde nasogastrique est a priori quelque chose de provisoire. Après, pourquoi est-elle là, ça, n'ayant pas votre dossier, je ne peux absolument pas vous le dire. Oui. Mais si vous voulez, il y a des moments qui sont difficiles à vivre et c'est tout à fait normal. Le médecin qui vous suit, qui vous surveille maintenant, qui vous surveillera ou qui va vous surveiller, peut vous donner les coordonnées également de la psychologue. Ça n'engage à rien. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, il y a des gens qui sont contents de son intervention, il y a des gens qui disent bon, elle est intervenue, mais bon. Donc ça, il n'y a pas de remède miracle. Alors par contre, le problème à la question des associations de patients, les associations de patients opérés de la parotide, moi j'en connais pas. C'est des choses un peu particulières. Non, là, les facteurs de risque dont on a parlé ne sont pas du tout ceux que... c'est-à-dire que ça, c'est le coup à pas de chance. Ça peut arriver à n'importe qui.
Parce que j'ai pas parlé des glandes salivaires, parce que c'est quand même des maladies rares. Donc là, on ne pouvait pas aussi... En une demi-heure, balayer tout. Hein. Donc, j'ai parlé de ce qui était le plus fréquent, mais c'est vrai que votre cas, là, tumeur parotidienne, même si ce n'est pas primitivement parotidien, c'est quand même assez rare. Quand même.
Je vous propose, monsieur, de rencontrer d'ailleurs Catherine Baudou, si vous voulez, juste après cette conférence, parce qu'on a encore plein d'autres questions. C'est pour ça que je me permets de synthétiser un maximum. Je suis désolé. Mais en plus, je rappelle vraiment qu'on ne peut pas faire de cas personnels, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas les dossiers médicaux, et ce n'est vraiment pas l'endroit pour ce genre de... Enfin, ce n'est pas ce que l'on fait dans ces pôles infosanté. On est là pour vous informer au maximum, dans des généralités, on ne peut pas évidemment aller dans des cas persos, ce qui s'appelle une consultation.
Et c'est un peu ces plus cas compliqué. Personnels ne sont pas si personnels que ça, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans les consultations communes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de gratter très, très profondément pour trouver que tout le monde se pose les mêmes questions.
Oui. Tout à fait.
Chaque patient est un cas personnel, oui. J'en suis un comme tous les autres. Moi, je voudrais parler surtout de l'implication du patient par rapport, effectivement, j'allais dire, à son opération. Vous avez signalé tout à l'heure que le patient avait, j'allais dire, un certain nombre de mal vivre avec son handicap. Je crois qu'il faudrait que l'on parle aussi de l'implication personnelle dans sa propre maladie et dans sa, après sa propre opération. Très objectivement, j'ai des difficultés pour parler, mais je sais aussi me faire entendre, quel que soit le lieu. Bon, c'est peut-être un exemple ce soir, mais je participe dans de nombreuses associations sportives, culturelles et autres. Je m'implique et je n'ai pas peur de montrer ma différence par rapport aux autres, y compris avec le langage que vous pouvez tout simplement constater. Mais je voudrais poser la question, l'implication du malade, oui, mais après avoir effectivement, j'allais dire, être pris en charge, montrer les difficultés que l'on va avoir, mais aussi les appréhender et essayer de les dépasser.
Mais c'est sûr, ça, y a, et de toute façon, chaque personne réagit individuellement. Et c'est vrai que quand on a en face de nous un patient qui est battant, je peux vous dire que ça simplifie beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui a une laryngectomie totale pour lequel la rééducation n'est pas toujours évidente, il y a des gens, on sait très bien quand on les voit, qui ne reparleront jamais. Alors qu'ils n'ont aucune raison de ne pas pouvoir reparler, mais ça implique de faire des efforts, ça implique une certaine volonté, ça exprime un certain contexte. Je vais me faire agresser par la gente féminine, mais je pense en particulier à un patient qui n'a jamais reparlé de sa vie, parce que de toute façon, même quand il avait son larynx, il n'arrivait pas à placer un mot. On sait très bien qu'il y a des choses où, au moment, on ne peut pas aller contre eux. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un en face de nous qui se secoue un peu les puces, eh bien, ça aide. Mais le problème, ce n'est pas toujours facile.
Nous, on le remarque au niveau de la chirurgie aussi. Hein, quand un patient est tonique, dynamique, alors les suites opératoires sont quand même plus simples. Hein, et la durée d'hospitalisation est diminuée, tout se passe beaucoup mieux. Mais pour l'implication du patient aussi, elle est importante si ce que l'on fait, c'est qu'on explique bien au patient ce qui va se passer, quelles sont les différentes thérapeutiques, comment on peut aborder tel ou tel problème. Et donc, une fois que le patient a bien compris, alors là, il peut s'impliquer. Alors maintenant, si on lui dit on fait comme ça et puis c'est tout, alors là, il ne pourra pas trop s'impliquer. Donc, pour que le patient s'implique bien, il faut bien lui expliquer. Donc, nous, on a notre rôle donc d'explication technique, on va dire, en consultation d'annonce. Et puis après, c'est repris par Cathy qui réexplique à nouveau avec d'autres mots avec la même chose, en fait. Donc, il vaut mieux parfois deux fois qu'une pour que les patients puissent vraiment comprendre ce qu'on va faire. Donc, tout ce qui est donc avant, okay, surtout pendant et surtout après. Oui.
Bonsoir. Je voulais savoir, pour le cancer ethmoïdal, pour les poussières de bois, quand un menuisier est en retraite et qu'il n'a jamais eu de contrôle, est-ce qu'il y a... Alors, et au bout de combien de temps il en est exempt ?
C'est pas toujours. Alors, la question que vous posez, c'est est-ce que il y a des dépistages qui existent ou est-ce que finalement on peut... Quels sont les signes qui vont faire penser à...
Et des dépistages après avoir arrêté le travail, en fait.
Oui. Donc, quand on est exposé pour cire de bois... Donc c'est une maladie professionnelle, hein, c'est reconnu maladie professionnelle, et le délai était de 30 ans, maintenant c'est passé à 40 ans. Ça veut dire que même si c'est 40 ans avant que le patient donc, a été exposé aux poussières de bois, même si c'est pendant 5 ans ou 7 ans ou 10 ans, eh bien, à partir du moment où il a arrêté, pendant 40 ans, eh bien, s'il développe le cancer de l'ethmoïde, c'est reconnu maladie professionnelle. Donc moi j'avais fait un exposé auprès des médecins du travail en disant, voilà, normalement, toute personne qui travaille dans le bois, milieu de bois, doit avoir une fibroscopie par an de façon à dépister. Alors, ça c'est arrivé. Hein, on a le patient, il vient, il se plaint de rien. Hein, on l'examine et on trouve un petit bourgeon et on a donc pu dépister. Donc, la meilleure technique pour le dépistage, là, c'est la consultation d'ORL avec une fibroscopie. Même si le patient est en retraite, il faut quand même consulter pour pouvoir avoir un dépistage. Parce qu'on sait que le délai peut être long, puisqu'on a 40 ans de délai.
Donc on peut aller demander à, pour une personne qui est concernée, à son médecin généraliste, de programmer, d'orienter, de programmer un dépistage qui sera remboursé.
Tout à fait, oui. D'autant plus que comme ce n'est pas un cancer très fréquent, ça n'encombrera pas énormément les consultations des ORL.
C'est un cancer rare, hein, l'ethmoïde, hein, quand même.
Oui. Non, mais il y a plus de menuisiers qui n'ont pas de cancer d'ethmoïde que de menuisiers qui en ont. Quand même.
C'est pas une généralité.
Mais bon,
ça arrive chez un menuisier, mais c'est pas parce qu'on est menuisier qu'on prend un cancer d'ethmoïde. Non, mais des fois, on a tendance à ne pas faire le raisonnement inverse.
L'autre question, monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, moi j'ai juste une petite question à vous poser parce que j'ai travaillé, comme vous avez dit, monsieur Germain, vous voyez quelqu'un au bord de la route avec un marteau piqueur, il n'a pas de casque. Bien, moi j'ai travaillé dans l'usine pendant 35 ans. C'est vrai, au départ, ils n'obligent pas à mettre les casques. Par contre, les chaussures de sécurité, oui, c'est ça la différence. Donc moi j'ai eu un petit problème là, justement, j'ai passé il y a quelques années, 2-3 ans. J'étais à la mélitrie là-bas chez SU, puis j'ai fait un diagnostic des oreilles. Malheureusement, j'ai fait 2 consultations, mais le problème, c'est, on appelle ça des acouphènes, c'est ça ?
Oui.
Donc, il n'y a rien à faire d'après, je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'écoutez, c'est une maladie comme le diabète et tout ça, donc il n'y a rien à faire, il faut vivre avec ça. Donc, je ne sais pas. C'est vrai quand il y a le bruit, on n'entend pas ça, mais quand on est tout seul, ça s'y fait.
Alors ça, je ne suis pas compétent pour répondre. C'est plutôt
un peu hors sujet, mais je vais quand même répondre.
Oui. En fait, oui, il est hors sujet, évidemment.
Mais ça ne fait rien.
On est quand même dans le même esprit.
C'est ça ?
Si, oui.
Mais il est dans le... Non ?
Alors, quand un patient a des acouphènes, d'abord, il faut déjà l'examiner, et puis par la suite, faire un audiogramme pour voir s'il y a une chute d'audition ou pas. Et après, faire au moins une imagerie pour savoir si on a une cause organique à l'acouphène. Quand on fait tout ce bilan-là et que finalement l'examen est strictement normal, déjà on peut rassurer le patient en disant voilà, il n'y a rien de grave qui est responsable de cette acouphène. Alors par la suite, on revoit le patient régulièrement et tout doucement, on remarque qu'une fois qu'on a fait tout le bilan et qu'on a rassuré le patient, eh bien, ça disparaît. Enfin, ça disparaît. En fait, on n'arrive pas à savoir si l'acouphène disparaît, ou si, parce qu'on sait qu'il y a quand même l'habituation du cerveau qui fait que le patient ne va plus l'entendre. Alors on ne sait pas s'il ne l'entend plus parce que ça disparaît, ou parce que c'est le cerveau qui s'habitue, et alors le patient n'entend pas. Maintenant, si, malgré cela, les acouphènes sont toujours permanents et vraiment embêtants, il existe donc, après on oriente vers un audioprothésiste, puisqu'il existe des appareillages pour pouvoir diminuer ces acouphènes et en fait que le patient puisse quand même vivre à peu près correctement, parce que c'est vrai que quand ils sont vraiment invalidants, surtout le soir dans le silence ou la nuit, donc là, ça peut être invalidant. Donc il existe des techniques d'appareillage pour vraiment soulager les patients.
Mais là où le témoignage de monsieur est très intéressant, c'est qu'on disait qu'on ne l'obligeait pas à mettre des casques, à mettre un casque, mais uniquement les chaussures. Et ça revient à ce qu'on disait par rapport au menuisier tout à l'heure.
Ceci étant dit, actuellement, ça rentre un peu plus dans les mœurs, mais il y a quelques années, toutes ces précautions préventives. Il est certain que les chaussures, c'est plus utile, parce que si on se fait couper un pied, c'est peut-être plus grave, que surtout pour la poursuite du travail, que d'avoir des acouphènes, mais l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Et c'est vrai que... Mais on le voit toujours maintenant, parce que, et vous savez, il y a un truc très simple, hein, c'est mettre la ceinture de sécurité en voiture. Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme une contrainte, etc. La ceinture de sécurité a sauvé des milliers et des milliers de vies. Et finalement, maintenant, la plupart des gens la mettent, tout ça, parce qu'ils ont peur d'avoir 3 points en moins et une grosse amende. Et que maintenant, ça rentre dans l'inconscient des gens, c'est rentré. Mais il était un temps, c'était pareil, faire mettre la ceinture de sécurité en ville il y a 10 ans, c'était une intrusion dans la vie privée des gens. Après, on peut discuter, c'est des problèmes de société, qu'est-ce que c'est que la liberté de chacun, mais la différence qu'il y a entre la ceinture de sécurité et les casques anti-bruit ou les chaussures de chantier, c'est que dans le casque anti-bruit et les chaussures de chantier, c'est quand même la personne elle-même qui est concernée. Avec la ceinture de sécurité, c'est plus un problème de société et de prise en charge, de coûts de santé. Ceci étant dit, si on a un accident de la route et qu'on n'est pas tué, c'est quand même mieux que si on est tué.
Vous faites de la prévention vous-même auprès des chefs d'entreprise qui ont des métiers comme ceux, qui proposent des métiers comme ceux-là, qui peuvent être à risque par rapport au cancer ORL ?
Pour les cancers ORL, ouais, pas oui. Au niveau
non, non,
auditif.
ORL. Non, ORL.
Eh bien, les patients qui viennent en consultation pour notre problème, on leur pose toujours quels sont alors, est-ce que vous avez des facteurs de risque? Si oui, alors après, on leur explique quand même que il y a quand même.
Au niveau des chefs d'entreprise.
Au niveau des chefs d'entreprise, non, on n'a pas d'action directement au niveau des chefs d'entreprise, plutôt au niveau des patients eux-mêmes. Oui.
Ça, ça peut se faire au niveau de la médecine du travail.
Mmh. Oui, ça peut être le rôle du travail, du médecin du travail.
Ils sont tellement surbookés, les médecins du travail, que le... c'est malheureux. Parce que c'est malheureux, la médecine du travail est une spécialité extrêmement utile et qui est maintenant un peu... on cherche à faire des économies, on cherche à mutualiser, c'est les grands mots, etc., et que malheureusement, les médecins du travail actuellement n'ont plus les possibilités de temps de s'impliquer dans ce genre de choses. Et comme maintenant, la gestion d'une entreprise, c'est d'essayer de ne pas délocaliser, de ne pas se faire acheter par des Chinois, etc., la prévention de la surdité dans l'entreprise, même si la loi existe, je ne suis pas persuadé que ça soit toujours la priorité.
Ce que je sais, c'est que l'association des mutilés de la voix intervient dans les lycées et les collèges. Et souvent, ces interventions font assez bouleversent pas mal les lycéens et les collégiens, parce que le président de l'association qui intervient dans ces collèges est donc un ancien laryngectomisé avec une voix œsophagienne. Et souvent, ça marque beaucoup les gamins quand il y a ce type de journée ou de cours organisés.
Je pense que de toute façon, si on veut arriver à faire intégrer des notions de prévention, de précaution, il faut faire adhérer les gens, l'utilisateur. C'est-à-dire que je pense que dans des lycées, dans des collèges, des réunions comme ça, les jeunes, ils voient ça. Ils sont très, très réceptifs, des fois, à certains trucs. T'es grande chez eux, dis papa, pourquoi est-ce que tu fais ça dans ton boulot? Et le père regarde avec des grands yeux. Il n'avait même pas la notion que... parce que le message n'était pas passé. Et ça, je pense qu'effectivement, ce n'est pas par la répression ou par la contrainte qu'on arrivera à faire progresser les choses, c'est par justement ce truc-là, faire prendre conscience aux gens de l'utilité de...
Et par rapport à ce genre de soirée aussi, qui sont des réunions d'information.
Je pense qu'une soirée comme aujourd'hui peut semer des grains, que le soir, vous allez parler chez vous avec des voisins, avec des amis, etc., et qu'il y a peut-être des choses, des messages qui passeront et qui seront utiles.
Il y a aussi le tabagisme passif aussi. Pas l'oublier. On a eu
quelques cas où
la personne n'avait pas fumé, mais l'entourage, où elle travaillait dans un café où à cette époque-là, on fumait dans les bars. Et on a eu quelques cas de tabagisme passif.
C'est vrai que cette loi de ne pas fumer finalement dans les lieux publics maintenant limite nettement les intoxications pour les patients pour les personnes qui ne sont pas fumeurs.
Autre question ?
Merci. Alors, on sait qu'il existe un vaccin contre le cancer de l'utérus. Est-ce que, à l'avenir, il pourrait être envisagé un vaccin contre, par exemple, le virus HPV ?
Alors,
le virus HPV ?
Alors, HPV, c'est Human Papillomavirus, un virus qui va provoquer des papillomes. Alors après, il y a des papillomes, il y a des virus qui vont provoquer des papillomes, mais bénins. Voilà. Donc on dit des HPV de bas risque. Et après, il y a les HPV à haut risque qui vont là provoquer des carcinomes. Donc le cancer du col, on sait qu'il est à 100% dû à HPV au risque. Et on remarque qu'au niveau de l'amygdale, eh bien, on a dans 50% des cas, on peut trouver ce même virus HPV à haut risque. Donc là, on n'y est pas encore, nous, en France, mais on a participé à des études nationales là, sur l'épidémiologie de ce virus-là. On dit qu'en général, le cancer d'amygdale qui est dû au virus HPV est de meilleur pronostic que le cancer d'amygdale qui est dû à l'alcool-tabac. Donc il y a une meilleure réponse à la radiothérapie et il y a de meilleurs pronostics. L'idée derrière tout ça, là, c'est de la question, est-ce qu'un vaccin pourrait limiter ? Donc finalement... En fait, on pourrait y répondre par un peu indirectement, comme maintenant on vaccine les filles, mais même les garçons maintenant aux États-Unis vaccinent les garçons, hein, HPV. Donc, est-ce que dans 50 ans, eh bien, on va voir observer une diminution du cancer de l'oropharynx puisque ces personnes auront été vaccinées? Donc ça, c'est une question qui reste pour le moment en suspens. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pourquoi est-ce qu'un vaccin pourrait limiter le développement de ces cancers oropharyngés? Moi, je dirais que oui, puisque de toute façon, on y arrive. On va y arriver pour le cancer du col, comme c'est le même virus, il y a peu de raisons que ça ne marche pas pour l'ORL.
Donc en matière de recherche, il y a une avancée énorme qui se
fait. Actuellement, là, alors aux États-Unis, ils sont déjà, ils commencent déjà à vacciner les garçons hein, pour, en prévention de ce cancer ORL d'amygdale. En France, on est un peu plus, enfin, on ne peut pas dire en retard, mais on n'a pas le pris le même train au même moment. Donc on est en train là, de dépouiller une étude nationale dont on a participé pour les cancers en rapport avec HPV.
En France, on a un inconscient qui est un peu plus anti-vaccin, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir les complications des vaccins et pas ce qu'ils apportent. Et quand il y a eu la vaccination contre la grippe, là, il y a H1N1, là, il y a quelques années, on a vu les deux ou trois personnes qui avaient des fourmillements dans les jambes et on a dit c'est le méchant vaccin qui a fait ça. Et on n'a pas vu, par contre, des trucs qu'on a peut-être permis d'éviter. C'est-à-dire qu'il faut le problème des vaccins et ce vaccin anti-HPV, pour le moment, on a un recul qui n'est pas très, très grand. Donc, les Américains, eux, sont beaucoup plus activistes. Effectivement, ils le font même chez les gens de sexe mâle. En France, on est un peu plus prudent. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une voie de recherche qui fait que... si on pouvait éviter 30% de cancer de l'amygdale, c'est quand même intéressant.
C'est pas toujours évident parce que il y a souvent multiples facteurs de risque. Le patient qui a HPV peut aussi avoir alcool tabac. Alors après, on ne sait pas qui fait quoi. C'est facile de répondre quand il n'y a qu'un seul facteur de risque, mais quand ils se multiplient ou s'additionnent, c'est plus compliqué.
Une dernière question pour quelqu'un? On reste sur cette note optimiste de recherche, en fait.
Bon. Bien, merci.
Merci à vous. Merci, professeur Xavier Dufaux. Merci, docteur Thierry Germain et Catherine Baudou. Je voudrais remercier également l'organisation, le CHU, l'Espace Mendès France, l'équipe technique, et puis vous, public, évidemment. Pensez bien à remplir le formulaire aussi, c'est très important, qu'on vous a remis au début. Vous le laissez à nos hôtesses. Et puis, on se donne rendez-vous le 17 avril pour un nouveau pôle Info Santé. Ce sera le deuxième de l'année 2014. Le thème sera... C'est là en général que tout le monde écoute parce que tout le monde a envie de savoir. La prise en charge de l'incontinence. Rendez-vous le 17 avril. Bonne soirée, merci.
Le 13 mars, donc, ce sera la journée nationale de l'audition. Donc, comme tous les ans, deuxième jeudi de mars, donc au CHU. Donc, on aura un stand... au niveau du hall, de façon à pouvoir accueillir, expliquer aux patients un petit peu les problèmes auditifs, et puis s'ils le souhaitent, réaliser un audiogramme dans la foulée, de façon à pouvoir analyser l'acuité auditive. Donc là, cette journée nationale aura lieu donc le 13 mars, donc dans un mois.
Merci, bonne soirée.